Vous écoutez On lit pour vous.
Renaud, 6 astuces pour que le couple y survive. Un texte de conseil commandité paru le 24 février 2024 dans la presse. Vous en avez peut-être déjà été témoin. Entreprendre des travaux majeurs, c'est stressant pour n'importe quel couple. Quel est donc le secret pour traverser cette grande épreuve de poussière et de chaos sans trop de heurts? Gros plan sur quelques-uns des pièges à éviter lorsque vous vous lancez dans des rénovations à deux. 1. Budget. Ouvrir les livres. Dès le début du projet, discutez ouvertement et sans détour avec votre douce moitié de vos attentes et de vos limites budgétaires. Si les désaccords financiers sont une source de friction au quotidien, vous pouvez avoir l'assurance que les rénovations ne feront qu'exacerber cette tension. Fixez ensemble un budget réaliste, établi à partir des soumissions reçues et entendez-vous sur ce que vous jugez raisonnable comme dépassement de coûts. En ayant en tête ce cadre financier, vous aurez moins la tentation de vous laisser séduire par des « tant qu'à y être » qui risquent de faire dérailler votre projet. 2. Prévoir l'imprévisible. Parmi les certitudes sur lesquelles vous pouvez compter, il y a celle-ci. Rien, ou presque, ne se passera exactement comme prévu. Malgré votre planification béton, des délais ou des travaux imprévus surgiront en cours de route. À mesure que le projet prend forme, essayez de prévoir les plans B à votre portée. Est-il viable de dormir sur place pendant toute la durée des rénovations? À supposer que vous planifiez des vacances familiales, peuvent-elles être reportées si les travaux prennent du retard? Quelles sont les conséquences s'il faut décaler les travaux de tous les corps de métier de plusieurs semaines? Avoir quelques solutions de rechange en poche et privilégier une bonne communication vous aidera à mieux rebondir en cas de pépin. 3. Diviser pour mieux régner. Que vous rénoviez une pièce de fond en comble ou que vous curtiez ou stripiez, vous diront les pros du milieu, tout le rez-de-chaussée, vous avez du pain sur la planche. Répartissez les responsabilités en fonction des forces et des disponibilités de l'ensemble des partenaires. Pendant qu'une personne du couple assure le suivi budgétaire et les déboursés avec la banque, l'autre peut faire les demandes de soumission et négocier les contrats avec les sous-traitants. Vous êtes responsable des visites de chantier? Laissez à votre partenaire le soin de veiller à la commande des matériaux nécessaires aux prochaines étapes, entre autres exemples. 4. Bien vous entourer. Dans le cas de rénovation d'envergure, la gestion de projet prend des allures d'emploi à temps plein. Mieux vaut ne pas sous-estimer l'ampleur de la tâche, surtout lorsque le chantier battra son plein entre les demandes de permis à déposer, les inspections à gérer, les commandes de matériaux à réceptionner, les nombreux ouvriers spécialisés à aiguiller, les courses à faire en urgence quand il manque quelque chose, les mille et une décisions à prendre. Si vous avez retenu les services d'un entrepreneur général ou d'une entrepreneuse générale, cette personne pourra chapeauter l'ensemble des travaux et vous libérer d'une partie de ce stress. 5. Le fameux lâcher prise. Pour rester zen, jusqu'au fil d'arrivée, attendez-vous à faire des compromis. Il y a fort à parier que votre partenaire et vous ne vous entendrez pas sur tous les choix de conception, de fini et de matériaux. Cet évier de rêves épinglé dans tous vos tableaux Pinterest n'est peut-être plus sur le marché ou alors offert seulement en Europe. Un autre exemple? Il est possible que la céramique du Dosseret ressorte un brin plus foncé que vous l'imaginiez lorsque vous la posez contre vos nouvelles armoires. Dans tous les cas, préservez votre énergie et votre couple en choisissant vos batailles.
6.
Vous éduquez. Vous réalisez vous-même les travaux? Si votre expérience en tant que castor bricoleur n'est pas la même que celle de votre partenaire, tournez-vous vers les formations destinées aux amateurs, les guides et les didacticiels. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous mènera le chantier, mais une chose est sûre, vous devrez prendre des décisions communes et saisir l'importance de chaque étape du processus. Les guides d'initiation et autres outils d'apprentissage vous aideront à partir de la même base. Dans cette grande aventure, bien vous comprendre vous évitera plusieurs maux de tête et autant de frustrations. C'était Reno, 6 astuces pour que le couple y survive, un texte de conseil commandité paru le 24 février 2024 dans la presse.
Du rêve à la réalisation. Un texte de Martine Letarte paru le 27 février 2024 dans la presse. Imaginez que tous les enfants de Montréal puissent enfourcher leur vélo pour se rendre seuls à l'école. C'est le rêve de Catherine Turcot, ingénieure à la Ville de Montréal. Même si elle n'est pas certaine que ses filles de 1 et 3 ans pourront voir son rêve devenir réalité, elle y travaille au quotidien. Elle a notamment réalisé la conception du premier axe du réseau Express Vélo, REV, Berry-la-Jeunesse-Saint-Denis, un projet transformateur pour Montréal. Citation : C'était la première fois que la ville acceptait qu'un projet d'aménagement cyclable ait un impact sur la capacité routière, indique Catherine Turcot. Nous avons retranché une voie dans chaque direction et retiré quelques places de stationnement pour donner plus de visibilité aux cyclistes, qui sont par ailleurs protégés de la circulation par les voitures stationnées. Fin de citation. À ses yeux, Montréal est alors entré dans une nouvelle ère. Citation : Nous travaillons maintenant à attirer le plus de gens possible sur les voies cyclables en créant des aménagements de qualité et équitables où les gens se sentent bien et se rencontrent. Ce sont des milieux de vie. Fin de citation, dit Catherine Turcot. Le déclic est venu d'un voyage à vélo aux Pays-Bas en 2009. Citation : C'est un vrai mode de transport dans ce pays où tout a été conçu pour que ce soit sécuritaire et confortable, raconte-t-elle. On voit des gens âgés à vélo, des gens qui vont travailler, d'autres qui font leurs courses et des enfants qui vont seuls à l'école. J'ai été ébahie par ce que j'ai vu. Fin de citation. L'objectif professionnel de Catherine Turcot était désormais clair. Celle qui, déjà à l'époque, se déplaçait à vélo toute l'année, voulait créer des rues à échelle humaine où les gens se sentent bien et choisissent naturellement le vélo et la marche comme mode de transport. Si elle pensait d'abord devenir architecte ou architecte du paysage, son objectif l'a amenée vers le génie de la construction. Citation : La conception routière est un acte réservé aux ingénieurs. Fin de citation, précise celle qui a fait sa maîtrise sur l'élaboration d'un réseau cyclable en milieu urbain. Alors que le premier axe du REV a été un succès, avec un record de plus de 1,5 million de passages au compteur en 2023, la femme de 39 ans et son équipe travaillent maintenant à développer notamment l'axe REV Henri Bourassa. Rêver avec la science. Doit-on être rêveur pour devenir ingénieur? Oui, tout en étant ancré dans la science, évalue Sophie Larivière-Manta, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, OIQ. Citation : Il y a un côté créatif et innovateur, parce que l'ingénieur aime trouver des solutions aux problèmes, explique-t-elle. Et cela peut s'appliquer à toutes sortes de domaines, comme l'adaptation au changement climatique et la recherche de nouvelles façons de chauffer les bâtiments. Fin de citation. Catherine Turcot n'est pas la seule ingénieure à rêver grand et à travailler pour que cela devienne réalité. Déjà à l'université, les jeunes en génie aspirent à changer le monde, remarque David Ménard, professeur au département de génie physique à Polytechnique Montréal. Citation : Dans les cours fondamentaux, comme mécanique quantique, je fais des liens avec les grands enjeux actuels. Ce qu'on étudie peut changer la donne dans différents domaines. Par exemple, la création de nouveaux matériaux pour produire de l'énergie renouvelable. Les jeunes sont très réceptifs à ça. Fin de citation, souligne David Ménard, professeur au département de génie physique à Polytechnique Montréal. Rêver pour entreprendre. Le côté rêveur vient souvent aussi avec le côté entrepreneur chez les ingénieurs. En effet, pas moins de 15% des ingénieurs du Québec possèdent une entreprise, d'après une étude publiée en novembre 2022 par l'OIQ. En comparaison, c'était 5,6% dans la population québécoise en 2021, d'après l'indice entrepreneurial. De plus, 83% de leurs entreprises sont basées sur un produit ou service conçu ou amélioré grâce à leur formation en génie. Ces sociétés sont d'ailleurs 4 fois plus nombreuses que les PME canadiennes à détenir des brevets. Les étudiants en génie suivent aussi la tendance. 50% d'entre eux ont l'intention de se lancer un jour en affaires. Pour arriver à imaginer des solutions qui changeront les choses, il faut baigner dans un environnement favorable à la créativité, d'après David Ménard. Citation : D'ailleurs, si l'intelligence artificielle avance très rapidement, elle n'arrive pas encore à rivaliser avec l'intelligence naturelle où l'humain est juste là, ouvert, spontané, créatif et qui, soudainement, a des idées, souligne-t-il. Mais, pour que cela se produise, il faut créer des lieux où les gens se sentent bien et peuvent échanger. Il faut aussi laisser de la place à la spontanéité, ce qui est difficile dans notre travail, parce qu'on a des horaires assez chargés, mais c'est important d'y arriver. » Fin de citation. C'était « Du rêve à la réalisation », un texte de Martine Letarte, paru le 27 février 2024 dans La Presse.
La délicate question de l'optimisme. Un texte de Raphaël Germain, paru le 23 février 2024 dans La Presse. Fun Facts est un petit jeu, plutôt mal nommé, qui consiste à répondre à une série de questions qui se veulent révélatrices. Combien d'années de votre vie donneriez-vous pour devenir milliardaire? Combien avez-vous de tatouages? Sur une échelle de 0 à 100, à quel point croyez-vous être créatif, aimer votre coiffure, être sensible au jugement des autres, etc.? Les participants inscrivent leurs réponses sur des petites fléchettes colorées qu'ils doivent ensuite essayer de placer en ordre croissant sans voir celle des autres, histoire d'évaluer à quel point ils se connaissent bien mutuellement. Par exemple, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas de tatouage et se doutent que je dois scorer assez bas merci pour ce qui est de la coiffure. Ça donne lieu à de sympathiques discussions et même à quelques surprises. À la question « Quelle année historique aimeriez-vous pouvoir revisiter ?» un des grands-enfants, 21 ans, a répondu « 2016 ». On s'étonne des perceptions qu'ont les autres de nous et d'eux-mêmes, et on peut aussi, pourquoi pas, se prendre à réfléchir au moral des troupes et à la délicate question de l'optimisme. L'est-on encore? Peut-on l'être encore? Un des petits cartons nous demandait justement, de 0 à 100, combien diriez-vous que c'était mieux avant? Ma tante de 70 ans a rapidement griffonné quelque chose sur sa fléchette avant de la placer très loin devant elle, impliquant par là qu'il était selon elle peu probable, voire impossible, qu'un de nous ait mis un chiffre aussi élevé que le sien. Comme de fait, elle a révélé un 100, qui est tout de suite venu confirmer un « ben là » évocateur On n'était pas ici dans le ressenti, mais dans l'évidence. On a rigolé un peu. On sait bien, les boomers, tous pareils, après eux le déluge. Mais les réponses des plus jeunes ne la contredisaient pas tant que ça. À part mon 40, qui tenait surtout de la nostalgie, seule ma fille de 12 ans y était allée d'un enthousiaste 20, juste à cause du réchauffement climatique. Les grands-enfants, eux, tous au début de la vingtaine, oscillaient entre 50 et 80. J'ai pas mis 100 à cause des progrès de la médecine. C'est sûr que c'était mieux avant. Il n'y avait pas Instagram. Instagram, gloire et décadence de la jeunesse. Que reprochent-ils tous à ce présent qu'ils habitent? On connaît les récriminations des plus vieux. Ce sont celles qu'avaient leurs parents à eux il y a de cela 30 ans. Les jeunes sont paresseux. Ils n'ont plus de valeur. On ne reconnaît plus le monde dans lequel on a grandi. Des doléances vers lesquelles nous voguons tous, ne nous en déplaise. Il n'est pas loin, le vieux grincheux qui sommeille en nous. Il se réveillera comme ceux de nos parents dès qu'il se sentira largué. Dieu que c'est insultant de se sentir largué. Mais notre partie de Fun Facts, cet exercice hautement scientifique, nous révélait des jeunes tout aussi déconfits face à l'inexorabilité du progrès. Ils sont anxieux, on le sait. Et ils le savent. Ils se le font dire presque quotidiennement par les médias qui s'entêtent à dépeindre une génération fragile et quasiment dysfonctionnelle, paralysée par l'éco-anxiété et abrutie par les réseaux sociaux. La réalité est évidemment beaucoup plus nuancée que cela, mais il reste que, sans être irrémédiablement pessimistes, ils ont un sacré malaise avec l'optimisme. Et j'ai l'impression que ce n'est pas tant leur disposition collective qu'un effet d'entraînement. L'optimisme, on va se le dire, est rendu cringe. Même mesuré, même timide, l'optimisme est généralement accueilli avec méfiance, quand ce n'est pas carrément avec défiance. Il est perçu comme une sorte de trahison, une indifférence crasse face aux souffrances du monde et à l'état de la planète, à moins qu'il ne s'agisse d'aveuglement volontaire. Comment tu peux insinuer que ça va bien aller alors que la maison brûle? Tu lis pas les nouvelles? T'es cave ou t'es insensible? Pourtant, dans les faits, le monde se porte mieux globalement qu'il y a 100 ans. Il ne se porte pas bien, mais il se porte mieux. Assez, me semblait-il, pour écrire 40 sur sa petite fléchette mauve. Mais le pessimisme a une force d'attraction qui ne se dément pas, un chic indéniable. Personne n'a envie d'être la madame qui manque de lucidité ou d'empathie. Alors, on le cultive collectivement. Et on s'assure qu'il prenne racine chez ceux qui nous suivront. De 0 à 100. À quel point vous pensez que ça fait des enfants forts? C'était La délicate question de l'optimisme, un texte de Raphaël Germain, paru le 23 février 2024 dans La Presse.
Les poids lourds et les oubliés des commémorations, un texte de Catherine Lalonde, paru le 6 mars 2024 dans Le Devoir. On chante depuis plus d'un an le centenaire de Jean-Paul Riopel sur tous les tons. Et ce n'est pas fini. Sur la même période, les centièmes des artistes visuels Betty Goodwin et Marcel Ferron sont absolument discrets, comme celui de la très grande dame de la danse, Ludmila Shiriaev. On prédit déjà que le centième du réalisateur de films d'animation Frédéric Bach, deux fois oscarisé, sera aussi effacé. La grandeur artistique n'explique pas seule le deux poids, deux mesures qui affecte nos souvenances. En deuxième texte de cette série de trois, une réflexion sur ce qui fait qu'on commémore parfois à grand champ, parfois peu, parfois pas. On ne peut pas tout commémorer, c'est impossible. Un choix s'opère toujours. Et c'est toujours plus facile de dire « on a oublié de commémorer telle personne » que d'être celui qui choisit ce qu'il faut commémorer et comment, pose d'emblée Karim Chahine. C'est convenu, mais vrai, l'humain a besoin de se souvenir. On a ce désir de savoir d'où on vient pour comprendre où on va. On a besoin de commémoration comme on a besoin de mémoire, poursuit le chercheur, rappelant les distinctions entre mémoire et histoire. C'est complexe, la commémoration. On y joue avec des sentiments intimes, ceux des individus et des communautés, petites ou grandes, comme le sentiment d'appartenance, par exemple, ou l'identité, avec l'inscription de soi, des autres, de sa communauté dans le temps et l'espace, avec la création et la diffusion d'un certain récit du passé. Ce sont tous des éléments symboliques, mais émotivement très forts. Après sa maîtrise en histoire, M. Chahine a poursuivi un doctorat en études littéraires. Il s'intéresse maintenant à la commémoration et suit de près l'instauration, depuis juin 2022, de la stratégie québécoise de commémoration. La commémoration se conjugue toujours au présent, en se projetant autant dans le futur que dans le passé, dit-il. L'intimité. Comparer des commémorations ne peut être qu'un jeu pour aider la pensée. Trop d'éléments entrent en ligne de compte. De plus, la commémoration Riopel est absolument exceptionnelle, bien sûr, alors qu'elle peut, sans le vouloir, faire ombrage aux autres. Reste que certains éléments se recoupent dans les commémorations qui prennent. Si on parle d'art, la discipline et son poids social et artistique influent. La danse est l'art de l'éphémère, déjà, rappelle en exemple l'historienne de la danse Josiane Fortin. En danse même, on va toujours avoir tendance à se souvenir des œuvres et des chorégraphes, poursuit-elle. Et en art, on aura tendance à se souvenir plutôt des œuvres matérielles, comme celles que laissent les arts visuels, que celles évanescentes des arts vivants. Il faut de la matérialité, tranche Karim Chahine, que ce soit une plaque ou une statue pour les événements historiques, une œuvre tangible pour les arts. Le rapport économique n'est pas absent de cette équation. Riopel est un moteur économique artistique et ses commémorations, animées également par ses collectionneurs, augmentent aussi, roue qui tourne, la valeur de ses toiles. Souvenirs et famille. L'importance des communautés est primordiale, souligne ensuite M. Chahine. D'abord la communauté qui tient le souvenir, qui anime la reviviscence. Ainsi, M. Chahine aime aller voir les compositions des conseils d'administration et des groupes qui travaillent aux commémorations. Ce portrait administratif permet de constater que les leviers financiers, politiques, diplomatiques, relationnels ne sont pas les mêmes selon les organisations. On comprend en un clin d'œil que les amis de la place Marcel Ferron n'ont pas la même portée que la Fondation Riopel, sans aucun jugement sur la qualité du travail de l'un ou l'autre groupe. La place que prennent les familles des personnes commémorées, les ayants droit ou les héritiers, est aussi une clé, continue M. Chahine. Même si du point de vue historique, c'est une proximité qui n'est pas idéale. De manière plus triviale, les ressources financières influent également. Avoir les moyens de payer le salaire de quelqu'un qui planifie et organise une commémoration, comme le fait depuis quelques années la Fondation Riopel, change beaucoup de choses. Et ça, C'est vraiment rare, note M. Chahine. La communauté qui est touchée par la commémoration a elle aussi son importance et la résonance qu'a l'artiste dans le grand public. Les peintures de Riopel sont plus accessibles que les anciens ballets de Ludmila Chiriaev, illustre M. Chahine. Plus facile aussi à voir. Essayez sur Internet. Et les chansons des cow-boys fringants, pour filer l'idée, sont des œuvres encore infiniment plus populaires, plus accessibles. Peut-on prédire que le décès de Carl Tremblay sera commémoré et recommémoré? N'allons pas si vite. Il y a une différence entre deuil et commémoration. La mémoire est émotive. On dit souvent qu'on ne peut pas parler de commémoration avant que 10 ou 25 ans soient passés depuis l'événement ou le décès, précise M. Chahine. Commémoration démultipliée. Peut-on trop commémorer? M. Chahine refuse de trancher la question. C'est à la communauté de décider, de voir ce qu'elle peut digérer, de la place qu'elle a encore dans son agenda. Par contre, le spécialiste remarque que Riopel est entré dans un cycle d'auto-commémoration. Les discussions, tables rondes, activités et recherches naissent d'elles-mêmes maintenant. Mais il peut certainement y avoir ce moment où on oublie le présent en faveur du passé, où on regarde et se concentre sur un artiste centenaire au détriment de la relève qui aimerait bien avoir une chance. Dans le passé, rappelle M. Chahine, le choix de ce qui était commémoré s'appuyait sur des critères identitaires, nationaux, homogènes. Maintenant, d'autres sensibilités entrent en ligne de compte, d'autres sentiments d'appartenance. Une vision démultipliée, encouragée aussi par la nouvelle stratégie québécoise de commémoration du gouvernement du Québec qui, avec ses 6,2 millions sur 3 ans à coût d'aide de 50 000 $ maximum, veut assurer la pleine contribution de la commémoration dans la construction et le maintien de la mémoire collective et accroître la participation des citoyens de toutes les régions du Québec à des gestes de commémoration. C'était « Les poids lourds et les oubliés des commémorations », un texte de Catherine Lalonde, paru le 6 mars 2024 dans Le Devoir.